de vos réactions, pas forcément des questions, hein, des témoignages, des réactions, des objections, des propositions que je souhaiterais que nous travaillions.
Alors, je voudrais lancer.
Allez-y, lancez.
C'est toujours difficile de s'exprimer en premier. L'interrogation qui reste pour moi en suspens, c'est celle des choix à faire. Par exemple, est-ce que quand je suis professeur de littérature, je dois me dire qu'il est important que j'amène mes enfants à la lecture, donc de leur faire lire des choses faciles d'accès, qui correspondent à leurs intérêts, je sais pas, je pense à Marc Lévy par exemple, ou à Anna Gavalda, ou Fred Vargas, ou est-ce que je dois me dire non, parce que sortis de l'école, ils ne liront jamais du Chateaubriand, donc ils ne liront jamais du Racine, donc si je ne leur fais pas lire ça maintenant, je les prive d'une référence. Et ça, c'est un... Je le prends dans le français, mais je pense qu'on peut...
C'est partout pareil.
Partout pareil. Donc je voudrais un petit peu...
C'est une question absolument rémanente dans l'histoire de la pédagogie. C'est la question de l'intérêt des élèves. Parce que tout le problème pour les élèves, c'est que ce qui est dans leur intérêt n'est pas ce qui les intéresse. Et que ce qui est dans ce qui les intéresse n'est pas forcément dans leur intérêt. Et que la notion de l'intérêt de l'élève est une notion à géométrie variable. Parce que selon qu'on prend l'intérêt au sens de ce qui les intéresse ou ce qui est dans leur intérêt, ça n'a pas tout à fait la même portée, la même conséquence pédagogique. Alors pourquoi c'est important cette question ? C'est parce qu'elle est révélatrice, au-delà de ce questionnement précis, de la problématique de la pédagogie dans son ensemble. C'est-à-dire que ce que fait la réflexion pédagogique, c'est d'assumer les contradictions et de jouer sur la temporalité. L'idéologie, c'est l'opposition liberté-autorité, motivation-compréhension, c'est-à-dire toutes ces oppositions du sens commun qui sont tellement généralisées dans le domaine éducatif. Se contenter de faire, les gens qui ont fait de la pédagogie, c'est de dire on ne doit pas s'enfermer dans l'opposition. C'est-à-dire, on ne doit pas dire on fait ou l'un ou l'autre, on doit utiliser ce qui les réunit, c'est-à-dire la temporalité. Dans l'abstrait, on a le choix entre deux oppositions. La temporalité, c'est le passage, c'est la transition, c'est la capacité de trouver des ponts, de faire du bridging, comme disent les anglo-saxons, entre ce qui peut être l'intérêt et ce qui peut être dans leur intérêt. Et je crois que cela passe par quelque chose de très simple et de très très difficile, qui est l'exigence. Dans l'ouvrage auquel Edmé a eu la gentillesse de faire allusion en entrée, j'évoque le reproche qui m'était fait, d'ailleurs qui était infondé, qui était un reproche fantasmatique, d'avoir encouragé des élèves à faire un dossier sur Bob Marley et sur le reggae. Je ne suis pas du tout compétent, je ne connais rien à Bob Marley, je ne connais rien à reggae. Totalement incompétent sur la musique. Quel est le nom de cette musique? C'est, elle a un nom? Comment?
Le reggae.
Le reggae. Donc, je ne connaissais pas du tout ça. Alors, je m'y suis intéressé et je suis allé voir des élèves qui connaissaient ça. Et je me suis aperçu qu'à travers le reggae, à travers Bob Marley, à travers tout ça, il y avait une multitude de questions extrêmement intéressantes qui pouvaient être posées. Le reggae, paraît-il, parce que je n'y connais rien, c'est un usage spécifique du contrepoint en musique, donc ça renvoie à ça. C'est un mouvement qui est lié à l'émancipation des Noirs dans un certain nombre de pays comme Haïti. C'est donc un mouvement qui permet d'étudier d'une façon précise l'esclavage, qui permet de rentrer dans un certain nombre d'œuvres de la littérature, en particulier de la littérature américaine, mais pas seulement, qui permet de travailler sur l'histoire et qui permet de travailler sur Haïlé Sélassié, qui permet de travailler sur toute une série de choses, parce que le lien entre le... J'ai découvert, je ne savais pas. Le lien entre le reggae, Haïlé Sélassié, l'Afrique, l'Amérique du Sud, les îles, les Caraïbes, est un lien extrêmement complexe, qui permet de rentrer sur le problème de la délinquance, sur le problème de la drogue, sur le problème de l'addiction, etc. Donc moi, à la limite, que les élèves partent du reggae me choque pas du tout. Le problème, c'est qu'ils n'y restent pas. C'est-à-dire qu'à partir de ce qui peut constituer un centre d'intérêt pour eux, la Bob Marley, la musique reggae, on puisse tirer vers un certain nombre d'exigences intellectuelles qui vont leur permettre d'ouvrir sur toute une série d'autres domaines beaucoup plus exigeants, et qui vont, en littérature en particulier, puisque elle m'est posé la question sur la littérature, me permettre d'étudier l'homme qui rit, Victor Hugo, parce que, au fond, un certain nombre de problématiques que je trouve dans la musique reggae renvoient au marquage physique, que la question du marquage physique, de la souffrance, etc., est une question qu'on va trouver dans la littérature un peu partout, qui donne lieu à de très grandes œuvres, comme l'homme qui rit, Victor Hugo, etc., et que je vais pouvoir, dès lors que je suis exigeant. Ce qui serait catastrophique, c'est évidemment de dire, vous êtes intéressé au reggae, faites un dossier sur le reggae, on va écouter du reggae en classe, point barre. Ça, c'est de la démagogie pure et simple. C'est de la démagogie pure et simple. En revanche, prendre appui sur quelque chose pour essayer de voir comment ça peut enclencher progressivement d'autres champs de savoir, comment je peux de là tirer les lèvres vers des choses plus exigeantes intellectuellement, effectivement, la grande littérature classique, ça me paraît parfaitement possible et nécessaire. Mais ça, on est dans la transition, on n'est pas dans l'opposition, on est dans la capacité de passer de l'un à l'autre, d'opérer des transitions entre l'un et l'autre. Bon, vous évoquez Marc Lévy, moi je n'ai jamais lu Marc Lévy, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais il y a eu un grand débat en France sur un sujet un peu du même ordre, qui est Harry Potter. Bon, Harry Potter est un gros succès de librairie en France, je ne sais pas si c'est le cas ici. C'est d'ailleurs plutôt rassurant. Harry Potter, le dernier, il fait deux fois l'Assommoir de Zola en volume. Je ne dis pas en qualité littéraire. Mais c'est plutôt rassurant parce qu'on dit que les enfants ne lisent pas. Moi, mon père lisait Didier Flicotin. Moi, je lisais Le Club des Cinq et aujourd'hui, ils lisent Harry Potter. De ce côté-là, c'est plutôt le niveau qui monte, hein. Plutôt pas le niveau qui baisse. Parce que Harry Potter, on peut dire ce qu'on veut. Mais c'est quand même meilleur que Bibi Fricotin ou que la littérature de jeunesse que je lisais quand j'étais petit. Alors, ce qui est mauvais dans Harry Potter, c'est le caractère hégémonique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que ça. Mais j'ai défendu la possibilité d'entrer dans Harry Potter et de partir d'Harry Potter. Et alors là, avec Harry Potter, il n'y a aucun problème, parce que les thématiques d'Harry Potter sont des thématiques qui sont traitées de manière assez médiocre, mais qu'on va retrouver traitées d'une manière bien plus élaborée dans toute la grande littérature. Les sorcières, évidemment, moi je préfère celle de Shakespeare à celle d'Harry Potter. Les inquiétudes de l'adolescence, je préfère les désarrois des Torless à ceux d'Harry Potter. Je préfère la quête du Graal, le chrétien de Troyes, à Harry Potter. Mais je pense qu'on peut accéder à la quête du Graal par Harry Potter. Et que mépriser Harry Potter, c'est de bon ton parce que c'est de la littérature populaire, mais de fait, ils le lisent. En France, ils l'ont même acheté en anglais, pour beaucoup qui ne lisaient jamais l'anglais. Au moment, ils ont fait la queue au moment de la sortie en anglais dans les librairies pour avoir les premiers exemplaires. Donc, y a une véritable fascination pour ce type de littérature. Moi, je ne la rejette pas, surtout quand elle n'est pas ostensiblement vulgaire. Harry Potter n'est pas vulgaire. C'est faible, c'est un peu niais, mais c'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire. Il n'y a pas de vulgarité, ni de la pensée, ni du style. Je ne parle pas vulgarité au sens obscénité. C'est pas vulgaire. Il y a de la littérature vulgaire, vulgarité des sentiments, vulgarité du style. Je pense que ce n'est pas la peine de prendre appui dessus. Mais il y a de la littérature comme Harry Potter, ce n'est pas de la vulgarité. Et il y a à l'intérieur de ça des thématiques qu'on peut utiliser avec des élèves pour aboutir à des grandes œuvres. Alors là, pour le coup, avec Harry Potter, on a tous les ingrédients pour aboutir aux grandes œuvres. Et les élèves en sont eux-mêmes demandeurs, parce que, à travers les thématiques du rituel initiatique, qui est une thématique centrale d'Harry Potter, je veux dire, c'est une saga sur le passage de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte, à travers la question de la pensée magique, bien évidemment. Tous les élèves veulent être Harry Potter, parce qu'Harry Potter, il lui suffit de penser qu'il peut voler pour voler. Et la question de la pensée magique est une question fondamentale qui travaille toute la littérature. On veut quelque chose et on croit que parce qu'on le veut, ça va arriver. Je voudrais que tous les gens soient bleus, tous les gens sont bleus, je voudrais qu'il fasse beau, il fait beau, etc. Toute la littérature est traversée par le désir de la pensée magique, par l'homme qui se veut commander au monde. Et avec Harry Potter, je peux aboutir à la pensée magique, à une réflexion philosophique sur la pensée magique, forte, y compris avec des textes philosophiques très importants sur la pensée magique. Je peux faire lire Marcel Mauss à des élèves de 14 ans à partir d'Harry Potter. Et ils comprendront. Autrement dit, je peux même, avec des textes apparemment moins élevés, arriver, si je m'appuie dessus, à des textes plus exigeants encore. Parce que Marcel Mauss et les anthropologues, les spécialistes de la pensée magique, ils sont extrêmement difficiles à aborder pour des élèves de 14 ans. Mais ils sont très intéressants dès lors qu'ils répondent à des questions qu'on s'est posées à l'occasion de la lecture d'Harry Potter. Vous aviez cité Martelly, puis un second, j'ai oublié.
Non, mais j'ai pris des exemples de littérature à la mode.
Voilà.
J'ai pris deux femmes qui sont Anna Gavalda et Fred Vargas.
Ah oui, Anna Gavalda, j'ai pas lu. Fred Vargas, j'ai lu, en revanche, c'est du policier plutôt bien fait. On doit pouvoir entrer. Il y a aussi du très bon roman policier dans la littérature. Il y a Edgar Poe, il y a des choses de grande qualité. Je pense que dès lors qu'il ne s'agit pas de textes à caractère purement commercial, d'une vulgarité de pensée, porteur d'une idéologie douteuse, parce que ça peut exister, ça. Ça peut exister. Ça existe même, il ne faut pas être naïf, il y a certains jeux vidéo qui sont porteurs d'idéologie, qui sont une idéologie quand même objectivement fascisante. Le culte de la force, du machisme, etc., ça existe, c'est pas, on n'invente pas, tout le monde le sait. Bon, mais dès lors qu'il n'y a pas ce soupçon-là, on peut prendre appui sur des textes ou sur des problématiques. Je parlais de la science-fiction tout à l'heure. Je trouve que la science-fiction est beaucoup trop peu utilisée par les professeurs de sciences. La science-fiction est un réservoir de questions scientifiques fantastiques, extraordinaires, dans tous les domaines. Pour les biologistes, pour les géologues, pour les physiciens, même pour les mathématiciens. La science-fiction est un réservoir extraordinaire de questions pour les scientifiques. On peut ne pas mépriser la science-fiction dans son ensemble. Il y a de très beaux films qui donnent lieu, qui peuvent permettre de faire émerger de très bonnes questions. Moi, j'ai vu travailler des élèves de 13, 14, 15 ans à partir de Star Wars sur des grandes questions scientifiques, y compris des questions qui touchent à la robotique, à l'informatique, qui touchent à la physique de l'univers, à la structure de l'univers, etc. Tout simplement parce que le professeur de physique, le professeur de biologie avait fait un travail. Qu'est-ce qui est possible scientifiquement? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui sera possible un jour? Et que rien que cette interrogation, on projette un extrait de 10 minutes, de 13 minutes de Star Wars, on dit qu'est-ce qui est scientifiquement impossible? Qu'est-ce qui est scientifiquement possible? Et qu'est-ce qui est indécidable? C'est-à-dire qui pourrait être possible mais qu'on ne sait pas. Faire réfléchir à partir d'un extrait bien choisi d'un film de science-fiction des élèves autour de ces trois questions, c'est sacrément porteur. Et ça peut permettre de raccrocher des élèves à la physique, alors que c'est une discipline qui, par exemple, les ennuie ou qu'ils trouvent trop compliquée. C'est des questions très simples. Qu'est-ce qui est possible physiquement? Qu'est-ce qui est possible scientifiquement? Qu'est-ce qui pourrait... Et il y a débat. Et le prof organise un vrai débat. Et un vrai débat scientifique. C'est-à-dire qu'il faut débattre avec des vrais arguments scientifiques pour montrer que c'est scientifiquement possible ou que c'est scientifiquement impossible ou que c'est indécidable. bien, on peut s'appuyer sur un film de science-fiction bien fait, qui n'est pas, à rougir. D'ailleurs, l'intérêt de Star Wars, c'est que c'est non seulement un film qui est exploitable sur le plan de la physique et des sciences, c'est aussi un film qui est exploitable sur le plan littéraire, puisque c'est en réalité une reprise des grands archétypes mythologiques, bien, le mal, etc., à partir desquels on peut retrouver toute une série de films des mythologies, pas seulement d'ailleurs de la mythologie occidentale, mais de toute une série de mythologies. Puisque, en tout cas, ce qu'a fait ce film-là, c'est à travailler avec des anthropologues, hein, et des anthropologues de très haut niveau, pas avec des étudiants en anthropologie. Hein. Il a travaillé avec de grands anthropologues, avec les plus grands anthropologues américains, et quand il a fait Star Wars, c'est inspiré des travaux d'anthropologie, c'est-à-dire des contes et légendes et des grands mythes structurant les différentes civilisations. Donc on peut, avec ça, l'exploiter. Alors c'est un produit commercial, clair. Il faut donc avoir un peu de lucidité, de distance, pour ne pas rentrer dans une sorte de fascination pour le produit commercial. Mais on peut aussi ne pas être en situation de répudiation complète. Parce que la répudiation complète, elle nous met en position un peu fausse, parce que tout le monde sait bien que nous aussi, on en consomme un peu de ces produits-là. Hein, les études, alors ça ne concerne pas les professeurs helvétiques, donc ne vous sentez pas concernés, mais les études de mon collègue Bernard Lahire sur les pratiques culturelles des enseignants français montrent que même ceux qui lisent Bossuet et qui ont Bossuet sur leur table de chevet, ils regardent les conneries à la télé. C'est-à-dire qu'ils font les deux. Alors, ils ne disent pas qu'ils regardent les conneries à la télé. Ils ne disent pas qu'ils regardent la télé-réalité, qu'ils regardent ses bons choix, qu'ils regardent ce genre de trucs à la noire. Mais ils le regardent, comme les autres. Alors, ils se donnent des arguments. Ils disent, je regarde parce que c'est tellement nul que je veux voir jusqu'où ça peut être nul. Bon, c'est une façon de justifier qu'on regarde. Mais ils regardent. Donc, ce serait, il y a une forme de répudiation de la culture, on va dire, alors disons populaire au sens vague, parce que ça demande, c'est un terme qui est mal utilisé ici, qui est contre-productive et qui est une forme d'hypocrisie des intellectuels, qui sont autant consommateurs que les autres de cette culture-là, mais qui le font secrètement. Clandestinement, ils ne veulent pas la peau. Ah. Donc, pourquoi n'utiliserions-nous pas, quand c'est intelligent, et il arrive que ce soit, je ne connais pas bien ni Gavalda ni Lévy, mais Vargas, ce n'est pas sot, en plus, c'est une chercheuse au CNRS, c'est une femme qui est très cultivée, qui a écrit des textes politiques aussi, récemment en particulier, sur etc. C'est intéressant, voilà, du point de vue qu'elle défend. Donc, pourquoi ne pas, alors pas toute la journée, pas faire que ça, mais si ça peut permettre à un moment ou à un autre d'aider les gens à entrer dans la culture, oui, je crois que c'est pas méprisable. Ce n'est pas méprisable. Je vous en prie.
J'ai une question. Vous alliez vraiment commercial et non intelligent?
Non, je ne la lis pas du tout. Non, j'ai dit que il y avait des choses commerciales qui étaient plutôt de bonne qualité. Je dis très franchement, Harry Potter est meilleur et très commercial. Il n'y a pas plus commercial qu'Harry Potter avec les produits dérivés, etc. Et c'est meilleur que le commercial d'il y a 20 ans qui s'adressait à la même tranche d'âge.
Mais ça ne sera jamais complètement intelligent, quelque chose commercial.
Parce que vous pariez que les gens sont trop bêtes. Si, ça peut être complètement intelligent. Moi, je pense que les gens peuvent aimer massivement et faire un succès extraordinaire à des choses qui soient culturellement de grande qualité. J'ai pas du tout de. Je pense pas que la qualité est forcément élitiste. J'ai pas du tout cette conception-là des choses. Je suis pas relativiste non plus, c'est-à-dire. Je pense quand même qu'au bout du compte, entre Harry Potter et Shakespeare, il n'y a pas photo. Shakespeare, c'est pas pour les enfants. Il y a des pièges de Shakespeare qui peuvent parfaitement être utilisés avec des enfants ou être travaillés avec des enfants. Mais bon, alors disons entre Harry Potter et Molière, entre Harry Potter et je sais pas, les Forbrides Capins. Bon, je pense que. Mais pour autant, je n'ai aucun scrupule, il peut parfaitement y avoir des œuvres populaires et commerciales qui marchent très bien et qui sont des œuvres de qualité, oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, l'histoire, enfin, Hugo, dans l'histoire, a été l'exemple même dans la littérature d'un auteur très populaire. Balzac, à certains égards aussi, Zola aussi. Zola et tous ces gens-là, si vous êtes un peu littéraire, écrivez des feuilletons dans les feuilles de chou. Non, je ne sais pas si c'est votre cas. Non, ça vous fait rire.
Non, mais c'est vrai parce que je vais déranger le matin. Je lis aussi.
Mais attendez, bien sûr. Voilà. Mais Hugo, Balzac, Zola étaient des gens qui écrivaient, surtout Balzac et Zola, non, c'était des feuilletons. Hein. C'était des feuilletons dans les feuilles de chou les plus populaires de l'époque. Moi, je ne suis pas du tout hostile à. Et il y a, alors, puisque vous êtes en biologie, il y a des collègues biologistes, mais là encore, je n'ai pas assez de temps pour vous lire, qui me disent utiliser parfois des extraits ou des lectures d'œuvres de Weber, c'est ça ? Les fourmis, des choses comme ça, vous connaissez ça ? Voilà. Qui me disent qu'il y a des choses très intéressantes, que c'est une espèce de vulgarisation, mais fictionnée, etc., et que ça permet d'entrer dans l'univers de la biologie d'une manière intéressante et que ça passionne les élèves. Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu, que je ne peux pas en parler. Mais je crois qu'il y a des collègues qui peuvent y arriver. C'est pas méprisable. C'est pas méprisable de faire. Moi, je ne jette pas la pierre à ceux qui le font. Ça, c'est clair. Voilà sur cette question, mais qui est effectivement une question qui vaut pour toutes les disciplines, pas simplement pour. Alors chez nous, elle est très forte, elle est l'objet de gros débats autour des lettres. Les lettres focalisent beaucoup les oppositions, les hostilités, les tensions pédagogiques, beaucoup plus que les sciences sur lesquelles il y a un plus grand consensus. D'autres réactions, d'autres remarques, d'autres objections, d'autres points de vue. Je vais faire semblant. Oui, merci.
Nous avons courage à rechercher ce monde, ce jalousement de la culture, de l'histoire, comment ça a émergé, tout ça. Est-ce que c'est possible de programmatiquement prévoir quelque chose dans un aspect formel, quand même, d'un cours, d'un cadre d'école, etc.,
oui,
qui permette quelque chose qui est tout le contraire de formel?
Oui.
De faire un cours,
oui,
de demander aux élèves de comprendre ce bâtiment,
oui,
alors que ça va être spontané de faire.
Oui, mais d'abord, alors, trois remarques. La première remarque, c'est pas parce qu'on prend le temps de faire ça qu'on ne va pas faire du formel. Je l'ai bien dit. Hein. Là, on est très clair là-dessus. Deuxièmement, la spontanéité n'est jamais aussi bien que quand elle est préparée. Non, c'est une moutarde. Pour dire que si par exemple, je prends le cas des professeurs de sciences avec lesquels j'ai travaillé, quelle que soit leur spécialité, si ils n'ont aucune curiosité ni aucun intérêt pour l'histoire des sciences, c'est-à-dire, s'ils ne se sont pas préparés personnellement à ces questions, ils n'y arriveront pas. Donc, il y a un minimum de formation et de culture personnelle de sa discipline. Et ça, en France, ça fait défaut. C'est-à-dire qu'en France, les gens qui enseignent des disciplines n'ont pas assez de formation sur l'histoire de leur discipline, sur les grandes aventures intellectuelles de cette discipline, sur les grandes questions, sur les... la manière dont les théories sont apparues, sont disparues, etc. Et comme ils n'ont pas assez cela ou qu'ils l'ont d'une manière beaucoup trop fragmentaire et en pointillé, ils ne maîtrisent pas du tout. Donc, comme ils ne maîtrisent pas, ils ne peuvent pas improviser quand l'occasion se présente. Parce que c'est souvent des occasions qui se présentent. Et des occasions importantes. Pouvoir raconter à des élèves le voyage de Darwin aux Galapagos. Pouvoir le raconter, y compris en étant comme on raconte une histoire. Pouvoir, quand on est professeur de physique ou quand on est professeur de géographie, lire ou raconter des extraits des aventures d'Arthur Gordon Pym et du Sphinx des Glaces, qui est la reprise par Jules Verne du passage du pôle sud, et pouvoir expliquer ce qu'a été la découverte du pôle, quels étaient les fantasmes qu'avaient les gens autour de l'idée du pôle sud, comment on se représentait le pôle sud à l'époque d'Edgar Poe et de Jules Verne. Si on a cette culture, on va travailler sur la question du pôle, du magnétisme, et sur toute une série de questions de type scientifique extrêmement passionnantes, mais il faut qu'on ait en feedback un peu de d'amont, quoi. C'est-à-dire qu'on ait un minimum d'éléments autour de ces questions qui permettent, au moment où ça se présente, où on le sent, au moment où les élèves peuvent être accrochés, qui permettent de partir dans cette direction et de se laisser aller. Moi, je dis aux enseignants, et je le crois, laissez-vous aller. Quand vous êtes passionné, laissez-vous aller. Vous vous bridez trop, vous êtes trop contraint par vos programmes, mais laissez-vous aller, c'est un truc qui vous intéresse, parlez-en, rabâchez. Les élèves, ils préfèrent un prof obsédé qu'un prof emmerdant. Il faut le savoir. Ils savent, le prof obsédé qui parle que d'un seul truc, il va parler que du pôle sud pendant toute l'année. Non, il fait chier avec son pôle sud. Ouais, mais quand même, on a au moins appris quelque chose. Hein? Alors, c'est une caricature. Mais je pense qu'il faut se laisser aller. Il ne faut pas se censurer sur ses propres intérêts. Il ne faut pas se dire, parce qu'on est sérieux, il faut exclure les anecdotes, il faut exclure... Non, il faut... La science, les lettres, les arts sont pétris de matière humaine. Cette matière humaine, dès lors qu'on en maîtrise un peu, je crois qu'il faut se laisser aller à la porter, à la donner. Les élèves en sont demandeurs. Pourquoi vous croyez qu'ils vont au cinéma? Pourquoi vous croyez? Parce qu'il y a de la matière humaine. Et puis alors, troisième élément de réponse, c'est la possibilité de programmer cela sous forme de recherche faite par les élèves. Et on peut parfaitement, à un moment donné, quand on introduit une notion, il n'y en a pas 36 dans un programme, les notions clés. Quand j'introduis la notion d'énergie, quand j'introduis la notion de romantisme, ou quand j'introduis la notion de magnétisme, quand j'introduis la notion de classification des infinis de Cantor, bon. Qu'est-ce qui m'empêche de mettre en place un temps de recherche individuelle ou collective des élèves? Il y a des outils aujourd'hui, il y a des centres de documentation, des bibliothèques, il y a aussi un peu partout des accès possibles à Internet. Cherchons. La classification des infinis de Cantor, moi, je peux vous garantir que des élèves de 14 ans, ça va les passionner. Ça va les passionner. Le Cantor qui bagarre avec les gens de son époque pour expliquer que 1 égale 2, parce que si on superpose la série des nombres infinis entiers, la série des nombres pairs, les deux séries sont à la fois superposables, la seconde et la moitié de la première, donc la moitié est égale au tout, donc 1 égale 2, etc. Et que le nombre de points dans un segment est infini, comme le nombre de points dans une demi-droite, comme le nombre de points dans une droite, comme le nombre de points dans un plan, comme le nombre de points dans l'espace, et que tous ces infinis sont à la fois égaux et différents, et que donc tout peut être montré et son contraire, et que à partir de là on en arrive au théorème de Gödel, au fait qu'il n'y a pas clôture des démonstration mathématique, on en arrive à l'hypothèse des constantes de Fermat, on en arrive à toutes les grandes énigmes scientifiques qui sont passionnantes. Les paradoxes mathématiques sont passionnants, mettre les élèves à la recherche de ces paradoxes extravagants, partir du paradoxe très simple, un crétois dit tous les crétois sont des menteurs, le paradoxe d'Épiménide, est-ce vrai ou est-ce faux? Allez, on va chercher. Il y a une multitude de choses de ce type dans toutes les disciplines qui peuvent permettre de mettre les élèves en recherche. Et on peut l'organiser, ça, trouver des documents, les livres de Martin Gardner sur les paradoxes, Martin Gardner qui est un collaborateur d'Einstein, qui n'est pas n'importe qui est un des plus grands mathématiciens de notre temps, qui est mort il y a quelques mois. Martin Gardner a fait une série de livres sur les paradoxes mathématiques, qui sont des livres qu'on peut mettre entre les mains de tous les élèves de 12 ans, et qui les amènent à découvrir les questions que se sont posées tous les mathématiciens au long de l'histoire, et à rentrer dans les mathématiques par l'énigme, et par les questions telles qu'elles ont émergé. Il y a des moyens d'organiser la recherche. Donc je dirais, un, pour récapituler, avoir des temps autour de ce que j'ai appelé la genèse des savoirs, plutôt que l'histoire. Genèse, c'est peut-être le terme plus exact, parce que l'histoire, c'est une démarche historique, et c'est une démarche d'historien. La genèse, plutôt que l'histoire. Deuxièmement, avoir des temps qui ne sont pas incompatibles avec des temps de formalisation, ça je vous l'ai dit, hein, c'est absolument nécessaire, la formalisation. Deuxièmement, se donner une culture personnelle, et se laisser aller aux occasions qui se présentent d'accrocher un peu les élèves sur ces occasions-là. Et troisièmement, on peut mettre en place des situations de recherche. Et ça, on peut les programmer, les situations de recherche. Il faut même chercher les documents, il faut trouver qu'est-ce qu'ils pourront, il faut poser des problèmes. Voilà le problème auquel s'est trouvé confronté Cantor. Voilà le problème auquel s'est trouvé confronté Leibniz, quand il a été amené à construire le calcul infinitésimal. Quel était le problème qu'avait à résoudre Leibniz quand il s'est posé, quand il a élaboré le calcul infinitésimal? Il y avait un problème à résoudre. On n'a pas fait ça comme ça. Donc, je crois qu'on peut programmer ça, repérer ces questions et puis engager derrière quelque chose qui, je crois, pour mon expérience, passionne les élèves, même les plus durs. Et c'est même la seule chose qui passionne les élèves durs. Parce que je peux vous dire, moi, j'ai mes dernières expériences dans le secondaire, ça a été dans des lycées professionnels avec des BEP, c'est-à-dire des brevets d'études professionnelles, des élèves, un échec scolaire majeur, surtout, qui à 17 ans ne savait pas distinguer A accent et A sans accent. Hein? Alors, il y a des gens qui ont plus de 17 ans, okay, qui ne savent pas vraiment. Hein? Mais je pouvais leur faire le 64e cours sur A accent et A sans accent. Et bien ça ne marchait pas. En revanche, ils m'ont interrogé sur des choses extravagantes. On a travaillé sur, beaucoup de ces élèves d'origine africaine, on a travaillé sur l'histoire de l'Afrique, l'esclavage, tout ça. Mais ils ont fait des choses extraordinaires, ils ont accédé à des textes littéraires de très grande qualité, ils ont fait un travail formidable grâce à ça. Je pense que plus même, je vais même vous dire, plus les élèves sont en difficulté, plus le détour par la culture est payant. Parce que plus les élèves sont en difficulté, plus le détour par la culture peut les motiver. Ce qui motive un élève en difficulté, ce n'est pas le X plus 1 exercice qu'il a toujours échoué. Mais ça peut être une histoire, un récit, ça peut être un détour par la création, par... Et là, parce qu'il va se retrouver quelque part impliqué, ça redevient vivant, ça se remet à concerner. Alors attendons-nous bien, un adolescent ne va pas vous le dire. Si vous avez des ados de 15 ans qui vous disent « Monsieur, madame, ce que vous dites m'intéresse, c'est formidable et j'ai envie de revenir », il faut vous méfier. Soit ils se droguent, soit ils veulent vous assassiner. Il faut être lucide là-dessus. Hein? L'ado, par définition, ça le fait chier, il n'en a rien à foutre, et il n'y en aura pas demain. Mais ça, c'est par définition. Vous ne pouvez pas demander à un ado de vous dire, si vous dites, je vous aime comme c'est formidable, j'ai envie de... Posez-vous des tas de problèmes. Il y a un mauvais coup en préparation. L'ado, il faut toujours, même quand ça l'intéresse, lui dire, moi j'ai rien à faire, tout ça, je m'en fous. C'est des conneries, moi j'aime que la télé, j'aime que le rap, j'aime que Skyrock. Forcément l'ado vous dira ça. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'un ado de 15 ans tombe dans les bras en vous disant « Oh punaise, punaise, votre truc sur Darwin c'était passionnant, votre exposé sur Hugo ça m'a branché. » Non, il vous dira toujours « Darwin, il n'y a rien à foutre. » Il fait chier. Il faut le savoir. Il ne faut pas attendre qu'un ado vous dise, vous manifeste son adhésion. Parce que sa culture, c'est d'être dans le refus. Mais ce n'est pas parce qu'il vous dit ça fait chier, Hugo, Darwin, que ça ne l'intéresse pas. Il faut savoir décoder ça. Il faut savoir que l'ado, par définition, plus ça l'intéresse, plus il faut qu'il explique. Et qu'ils disent qu'il n'en a rien à foutre. C'est par principe. Donc vous n'allez pas vous casser la tête pour ça. Ça ne doit pas vous décourager. Le gamin de 12 ans, non. À 12 ans, on se passionne. Nous, quand il rentre, on appelle ça la sixième, nous, c'est la première année du secondaire, c'est à 11 ans. Hein? Alors là, 11 ans, qui veut faire un exposé, toute la classe, la main, ils veulent tous faire des choses. 6 mois après, il n'y a plus un seul qui veut faire un exposé, c'est un faillot, c'est tout ce qu'on veut, on n'a rien à foutre de l'école, tout ça c'est des conneries, etc. Il faut savoir que ça c'est une évolution normale. Il ne faut pas se laisser décontenancer par ça. Il ne faut pas se laisser piéger, c'est des choses qui sont... Nous on a fait pareil, on va pas... On a fait plus ou moins la même chose. Donc... Même si on a une sorte d'indifférence, il faut savoir qu'un ado a une formidable capacité de feindre l'indifférence, voire le rejet, mais que les choses font leur chemin dans sa tête quand même. Et c'est ça qui est important. Alors vous êtes tout jeune, vous allez commencer dans le métier, vous commencez dans le métier, mais moi qui suis très vieux et qui quitte le métier, je peux vous dire qu'il m'arrive de rencontrer parfois, par les hasards, les transports en commun sur un quai de gare, fin fond de la France, un type que j'ai eu comme élève il y a 30 ans, et qui me dit, tiens, je vous ai fait chier, j'étais pénible comme élève. Et maintenant, quand j'y pense, ça m'intéressait quand même. Il faut le savoir, que c'est sur le long terme, on ne travaille pas pour le court terme. Pour le court terme, on a les examens, on a tout ça, pour le reste. L'essentiel, c'est sur les moyens et long terme. Bien sûr. C'est ce qui va rester, c'est des choses qui fortent. C'est les choses où on s'impliquera nous qui vont rester. C'est pour ça que je crois beaucoup à la nécessité d'une formation culturelle des enseignants sur leur discipline. Ce qui, en France, n'est pas le cas. En France, on a des professeurs de biologie qui n'ont aucune idée sur l'histoire de la biologie. C'est-à-dire qu'ils ne savent... On a des professeurs de physique qui n'ont pas étudié l'épicurisme, par exemple, et qui ne savent pas que la notion d'atome est déjà chez Épicure. Et que chez Épicure, les atomes sont crochus. C'est comme ça qu'ils s'accrochent les uns aux autres pour faire le monde. S'ils expliquaient l'histoire des atomes crochus chez Épicure, et s'ils étaient capables de montrer la filiation intellectuel qu'il y a entre l'atome crochu d'Épicure et puis la théorie atomique telle qu'elle existe aujourd'hui, je pense que ça les aiderait. Ça les aiderait vraiment. Mais malheureusement, on n'a pas cette formation chez nous.
Mais donc vous encouragez à, je peux dire, à ignorer le programme, mais à
prendre des livres,
à se permettre des détours et puis.
Mais le
on risque d'avoir un petit problème.
Mais vous le faites, vous le ferez.
Si on ignore trop ce qui nous est demandé, on a quand même certain mandat qu'on devrait plus ou moins respecter ce qu'il y a dans ce document.
Bien sûr. Simplement, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que vous n'allez pas ignorer ce qui vous est demandé, mais vous allez prendre un tout petit peu de liberté pour faire vivre votre discipline. Vous faites vivre votre discipline. À partir du moment où votre discipline vit, où ça vit dans la classe, intellectuellement parlant, bien sûr, biologiquement, les élèves ne sont pas morts, mais à partir du moment où ils peuvent être en somnolence profonde, mais faire vivre votre discipline, c'est créer une situation dans laquelle il y a de la vie, il y a vous qui vous impliquez, il y a de l'histoire, il y a des enjeux. C'est pas... du moment qu'il y a de la vie, c'est comme en biologie, ça. Après, le bouillon de culture, ça va beaucoup plus vite. Si c'est un bocal stérile, je m'adresse au biologiste, il ne va rien se passer à l'intérieur, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, si votre classe est un bocal stérile, vous pouvez déployer le programme dans le bocal stérile, ça ne va pas servir. Donc, il faut que je sois un bouillon de culture. Vous voyez, je fais un beau jeu de mots, là. Bouillon de culture. Prenez le mot culture au sens de la culture, alors que bouillon de culture, chez les biologistes, c'est autre chose. Mais, ouais, il faut qu'il y ait de la vie, et puis mettez-en. Ça ne veut pas dire de la pagaille. Ça ne veut pas dire du chahut, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mettre des élèves à travailler sur la classification des infinis de Cantor, ce n'est pas le chahut. Ce n'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Et alors dans l'enseignement, les disciplines comme la philosophie, par exemple, évidemment, normalement les professeurs font ça tout le temps, puisqu'ils partent justement de ces questions que les hommes sont. Non, ben non, ils font ça tout le temps, permanent. C'est leur métier. Mais je pense qu'on devrait le faire dans toutes les disciplines, partir des questions. Et les questions, elles existent, puisque si les hommes ont élaboré des savoirs, c'est bien parce qu'ils se posaient des questions. On ne se pose pas de questions, on n'élabore pas de savoirs. Il y a bien des questions à l'origine de tous les savoirs. Il y a bien des questions. Des questions de toutes sortes, des questions idiotes, des questions parfois stupides, mais par exemple, je trouve à cet égard que la formation épistémologique des enseignants français, je ne dis pas du tout, je ne connais pas la vôtre, est insuffisante. Par exemple, tous les enseignants devraient étudier Popper, les thèses de Popper, les thèses de Feyerabend sur la construction de la science et des savoirs, pour comprendre comment se construit une théorie et un savoir. On ne peut pas aujourd'hui comprendre comment enseigner des savoirs sans comprendre comment ils se sont construits. Il y a des travaux là-dessus. Popper est discutable, Feyerabend encore plus. En tout cas, il faut connaître leurs travaux. Nous, nos enseignants français ne le connaissent pas. Peut-être, je ne sais pas, vous connaissez tout ça sur le bout du doigt. Mais nous, nos enseignants français manquent de cette culture épistémologique générale qui leur permet de recontextualiser la question des savoirs dans un contexte plus vaste. Alors je traduis ça parfois d'une autre manière, qui est une manière que je trouve importante politiquement. C'est quand je dis qu'il faut que les enseignants reconquièrent leur statut d'intellectuel. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement des tayloris, on n'est pas dans le taylorisme, vous n'êtes pas simplement des gens à qui on confie l'enseignement d'une parcelle, d'un truc, et vous vissez votre boulon comme Chaplin dans l'état moderne toute votre vie, sur votre parcelle, et sur votre théorème, sur votre organisation du texte, sur votre grammaire, sur tout ça. Il faut qu'ils redeviennent des vrais intellectuels, en étant dans la cité, les gens qui ont un statut intellectuel, et à ce titre, qu'ils aient les prérogatives, mais aussi les capacités de faire vivre l'intelligence dans leur classe. Après, bien sûr que vous ferez le programme, bien sûr. Mais il faut aussi vous dégager d'une illusion. Là, je pars un peu en papille. C'est l'illusion de la linéarité. Et il ne faut pas penser que un programme, c'est 36 notions, parce qu'il y a 36 semaines dans l'année, qu'il y aura une notion par semaine et que tout le temps se vaut. On peut passer 4 semaines à faire de la recherche sur des trucs complètement extravagants qui fassent que dans la 5e semaine, on acquérera en une semaine plus qu'on aura acquis dans les qu'on aurait acquis si on n'avait rien fait avant. C'est-à-dire, le temps n'est pas linéaire. Il n'y a pas de linéarité du temps. Quand un enseignant me dit « je perds mon temps si je fais ça », je dis « mais vous n'en savez rien ». Si ce que vous faites en prenant du temps mobilise les élèves, leur fait comprendre des trucs, et vous vous imaginez tout ce que vous économisez pour l'avenir en « taisez-vous, écoutez-moi, vous n'avez pas compris, je réexplique enfin, », vous économisez une énergie formidable. Et il faut arrêter, je crois, de penser que l'enseignement est un métier technologique. Ce n'est pas un métier technologique, c'est un métier de l'humain. Et l'humain, les segments ne sont pas tous équivalents, la temporalité n'est pas une temporalité mécanique. Si vous vous donnez la liberté de faire un travail de recherche sur le théorème de Gödel, avec des élèves de 14 ans, peut-être que ce n'est pas au programme, mais que vous allez très vite, à partir de là, réintégrer tout un tas de choses qui sont dans le programme. Alors évidemment, il faut le prévoir, il faut le programmer, il ne faut pas errer sur le théorème de Gödel toute l'année et arriver à la fin de l'année en disant que « tiens, j'ai oublié le programme ». Quand même un minimum de responsabilité. Mais cette responsabilité n'exclut pas une vraie liberté, parce qu'au bout du compte, dans votre face-à-face avec la classe, vous êtes libre. Ce que vous avez à rendre compte, c'est l'objectif de fin d'année. Et la manière dont vous y arrivez, vous avez quand même une marge de liberté pour y arriver, pour le penser. Vous pouvez investir cette liberté. Et moi, je dis aux jeunes enseignants, investissez cette liberté, parce qu'en plus, c'est le seul moyen de ne pas vous emmerder dans votre métier. Sinon, vous allez refaire tous les ans le même truc, ça va être chiant possible. Investissez cette liberté. Pour l'enseignant, investir la culture, au-delà des savoirs, c'est se retrouver un statut, mais c'est retrouver aussi du plaisir. C'est retrouver une forme de bien-être professionnel. Et c'est pas inintéressant le bien-être professionnel quand même. Hein. C'est même important, je crois. Bon, voilà, mais là, c'est un peu causerie au coin du feu, papy avant de partir, des conseils aux jeunes. Hein. J'ai bien conscience. Donc, vous prenez ça avec des pincettes, et vous en faites l'usage que vous voulez. Donc, vraiment, c'est un peu prêche de fin de vie. D'autres interventions, je m'en voudrais de ne pas vous avoir laissé intervenir autant que vous le souhaitez.
Alors, si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est le...
Il est midi moins 2, on a un petit peu dépassé, mais ce n'est pas gravissime. Vous allez quand même manger.
Ce n'est en tout cas pas le papy que je remercie, mais bien le pédagogue, parce que je crois que
les deux sont pas incompatibles. Hein.
Moi, j'ai envie de faire bien. Je crois que la parole qui a été donnée ce matin, en tout cas, avait comme effet d'être libérante. Et j'espère aussi qu'elle vous a unis, qu'elle nous a unis, puisque cet automne, c'est dans les classes que vous allez vous retrouver. Et que ça fait quand même une trentaine de personnes, que petit à petit, comme ça, avec cette philosophie de l'enseignement, de l'éducation, on aura vraiment des modifications de fond. Et je vous remercie beaucoup.
Puis surtout, vous prendrez du plaisir dans ce métier.
C'est sûr. Ils en ont. Je les vois, ils en ont. Donc, merci et bravo. Merci.